Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1895. Psychologie des foules est un essai de psychologie sociale et politique dans lequel Gustave Le Bon cherche à expliquer pourquoi des individus réunis peuvent penser, ressentir et agir autrement que lorsqu'ils sont isolés. L'ouvrage s'inscrit dans le contexte des transformations démocratiques, urbaines et politiques de la fin du XIXe siècle, que l'auteur interprète comme l'avènement des masses. Sa thèse centrale est qu'une foule psychologique tend à réduire la personnalité consciente de ses membres et à produire une orientation affective commune. Le Bon analyse ainsi la suggestibilité, la contagion émotionnelle, le rôle des meneurs, la force des images et la formation des croyances collectives. Texte fondateur et très influent, il doit toutefois être lu avec recul. Plusieurs de ses généralisations sur les peuples, les classes et les foules reflètent les préjugés et les limites scientifiques de son époque. Son intérêt actuel réside moins dans une théorie véliédée intégralement que dans les questions durables qu'il pose sur l'influence collective et la persuasion. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la foule psychologique dépasse la simple réunion physique. Pour Le Bon, une foule ne se définit pas seulement par le nombre de personnes présentes dans un même lieu. Elle existe véritablement lorsque des individus acquièrent une manière commune de sentir et de réagir. Une assemblée peut donc être physiquement dense sans former une foule psychologique, tandis que des personnes éloignées peuvent partager une même impulsion sous l'effet d'une croyance, d'un événement ou d'un mot d'ordre. Cette distinction donne au livre une portée politique plus large que l'étude des attroupements de rue. Le Bon soutient que, dans cet état collectif, les différences intellectuelles et sociales s'atténuent au profit de dispositions plus simples, affectives et immédiates. Il nomme ce phénomène l'unité mentale des foules. La conscience individuelle et le jugement critique ne disparaissent pas nécessairement au sens strict, mais ils sont, selon lui, subordonnés à une direction commune. Cette idée permet de comprendre la logique interne de son analyse. Le comportement collectif ne résulte pas d'une addition de raisonnements individuels. Il procède d'une transformation des rapports entre les individus, leurs émotions et les symboles qui les rassemblent. Les sciences sociales ultérieures ont contesté le caractère uniforme et systématiquement irrationnel de cette vision. Mais la question de l'émergence d'une identité collective demeure centrale. Deuxièmement, anonymat, contagion et suggestion comme mécanisme de désindividuation. Le Bon attribue la conduite des foules à trois mécanismes étroitement liés: le sentiment de puissance issu du nombre, la contagion et la suggestibilité. L'anonymat relatif permettrait à l'individu de se sentir moins directement responsable de ses actes et d'exprimer des impulsions qu'il réfrénerait seul. La contagion désigne ensuite la circulation rapide des émotions, des gestes et des jugements dans un groupe. Une peur, une indignation ou un enthousiasme peuvent se propager parce que chacun interprète la réaction des autres comme une confirmation de la sienne. Enfin, la suggestion décrit la réceptivité accrue à une affirmation, une image ou un ordre lorsqu'il s'accorde avec l'état émotionnel collectif. Ces mécanismes expliquent, pour Le Bon, l'instabilité apparente des foules, leur capacité à passer d'une ferveur intense à une hostilité tout aussi intense, ainsi que leur intolérance envers la contradiction. Cette description a contribué au débat ultérieur sur la désindividuation, soit la diminution du sentiment de responsabilité personnelle dans certaines situations de groupe. Elle ne doit pas être confondue avec une loi universelle. Les recherches modernes soulignent que les normes du groupe, les objectifs partagés, l'organisation et le contexte social influencent fortement les comportements. Le mérite historique du livre est d'avoir placé la responsabilité et l'identité individuelle au cœur de l'analyse collective. Troisièmement, le meneur agit par affirmation, répétition et image simple. La réflexion de Le Bon sur les meneurs constitue l'un des aspects les plus durables de l'ouvrage. Il ne décrit pas le dirigeant efficace comme un démonstrateur rationnel qui convaincrait par la précision de ses preuves. Dans une foule, affirme-t-il, l'influence repose d'abord sur une volonté affirmée, sur des formules brèves et sur la capacité à donner une forme sensible à une aspiration diffuse. L'affirmation doit être nette, répétée et peu encombrée de nuances. La répétition transforme progressivement une idée en évidence familière, tandis que la contagion la diffuse de proche en proche. Le prestige complète ce processus, il s'agit de l'autorité symbolique attachée à Sersun, une institution, une victoire ou une tradition. Le Bon insiste également sur le pouvoir des images, car les foules répondraient davantage aux représentations frappantes qu'aux enchaînements abstraits. Cette analyse éclaire pourquoi les discours politiques et les campagnes de mobilisation privilégient souvent les slogans, les récits simplifiés et les figures incarnant une cause. Elle ne justifie pas ces techniques et ne signifie pas que tout public est passif. Son utilité critique est plutôt de fournir des critères de vigilance, examiner la simplification d'un message, repérer la répétition émotionnelle, distinguer la réputation de la compétence et chercher les preuves que la mise en scène peut masquer. Quatrièmement, les croyances collectives structurent les institutions plus que les arguments isolés. Le Bon relie la psychologie des foules à une théorie plus vaste des croyances collectives. Pour lui, les civilisations ne reposent pas d'abord sur des raisonnements individuels, mais sur des convictions partagées, souvent héritées, qui organisent les institutions, les mœurs et l'autorité. Les grandes idées politiques ou religieuses n'agissent donc pas par leur seule cohérence logique. Elles deviennent efficaces lorsqu'elles prennent une forme imagée, affective et durable dans l'imagination collective. Cette perspective explique son intérêt pour les révolutions, les doctrines politiques et les changements sociaux. Une institution ne peut, selon son raisonnement, être transplantée ou réformée avec succès si les dispositions collectives qui la soutiennent ne sont pas prises en compte. L'observation est importante pour analyser l'écart entre une règle officielle et son appropriation réelle par un public. Elle invite à étudier les symboles, les habitudes et les attentes qui donnent une autorité concrète aux idées. Néanmoins, Le Bon présente souvent les traditions et les collectivités comme des forces presque immuables. Il sous-estime la délibération, les conflits d'intérêts, l'apprentissage politique et la capacité des citoyens à réviser leurs croyances. Sa théorie éclaire la puissance sociale des représentations communes. Mais elle devient insuffisante lorsqu'elle réduit les transformations historiques à des réflexes psychologiques collectifs. En dernier lieu, un classique influent dont les présupposés exigent une lecture critique, Psychologie des foules occupe une place majeure dans l'histoire des réflexions sur la propagande, l'opinion publique et le comportement de groupe. Son vocabulaire de contagion, de suggestion, de prestige et de meneur a marqué durablement les discussions sur la politique de masse. Pourtant, son statut de classique ne doit pas conduire à accepter son diagnostic sans examen. Le Bon tend à décrire les foules comme impulsives, féminines au sens péjoratif de son époque, intellectuellement inférieures et principalement destructrices. Il généralise aussi sur les peuples en mobilisant des catégories raciales aujourd'hui discréditées. Ces positions ne sont ni des résultats scientifiques établis, ni de simples détails périphériques, elles orientent sa vision pessimiste de la démocratie et du changement social. Une lecture informée doit donc séparer les intuitions fécondes des postulats datés. Les intuitions concernent notamment l'influence du contexte collectif, l'importance des symboles et la vulnérabilité des jugements sous pression émotionnelle. Les limites apparaissent lorsqu'il traite les groupes comme une entité homogène dépourvue de réflexion ou lorsqu'il oppose trop simplement individus rationnels et masses. Irrationnel. Comparer le livre aux approches contemporaines permet de voir que les groupes peuvent aussi coopérer, délibérer, développer des normes et agir de façon organisée. Cette tension entre fécondité historique et insuffisance théorique fait précisément l'intérêt intellectuel de l'ouvrage. En conclusion, Psychologie des foules s'adresse aux lecteurs intéressés par l'histoire de la psychologie sociale, la théorie politique, les médias, la communication publique et les mécanismes de mobilisation collective. Il peut être particulièrement utile à qui veut acquérir un regard critique sur les discours qui cherchent à susciter l'adhésion par l'émotion, les images, la répétition ou l'autorité personnelle. Le livre donne des outils conceptuels simples pour interroger la formation d'une opinion collective quelle émotion domine, quel symbole la rend visible, qui bénéficie du prestige et quelle part de vérification est remplacée par la contagion. Son bénéfice intellectuel tient aussi à sa lecture critique. Il montre comment une théorie apparemment lucide sur les masses peut être traversée par les peurs sociales, les hiérarchies et les préjugés de son temps. Comparé aux ouvrages contemporains de psychologie sociale, il est moins rigoureux empiriquement et beaucoup plus général dans ses conclusions. Il ne fournit donc pas un guide scientifique suffisant pour prédire le comportement des groupes. En revanche, il se distingue par son ambition reliée les réactions collectives aux transformations politiques, aux croyances et aux civilisations. Cette ampleur, jointe à son influence historique sur les études de la persuasion et de la propagande, explique sa persistance. Il est préférable de le lire comme un texte fondateur à discuter, complété par des recherches modernes sur les identités sociales, les normes de groupe et la délibération collective, plutôt que comme une description définitive des foules. Si vous souhaitez soutenir Gustave Le Bon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.